On va déguster. Sur France Inter.
Quand on revenait de l'école, elle nous avait préparé ces fameuses tartines avec la peau de lait qui nous attendait sur la table, soit avec de la gelée de groseille dessus, ou soit avec de la poudre de chocolat. Cette tartine de peau de lait qui a codifié un peu toute ma gourmandise, parce que cette peau de lait, je l'ai retrouvée après chez mes beaux-parents. Ma belle-mère faisait un 4/4 où elle remplaçait le beurre par la peau de lait. Et ce 4/4, il avait un goût qu'un 4/4 n'a pas. Surtout que cette peau de lait, bon, il faut la recueillir au quotidien, et puis elle se maturait un peu. Elle prenait une saveur autre que quand on la traite fraîche.
J'ai reconnu cette voix.
Oui, c'est la voix de Michel Bras. Extrait de l'émission À voix nue de France Culture, l'épisode 1, Le goût de l'enfance. Je vous invite à réécouter cette série magnifique où Michel Bras raconte son parcours. Je pense aussi au film Entre les bras, où on voit justement Michel Bras parler de cette madeleine d'enfance qu'il a avec son fils. Je me souvenais de ce moment autour de ces pots de lait qu'on vient récupérer au-dessus du lait, de ce moment de cuisine en fait, qui me parlait beaucoup, alors que je n'ai jamais bu de lait pendant mon enfance, oui. J'en utilise très peu dans ma cuisine. Mais cette texture de pot de lait mouillée, grasse, avec un goût très sucré, presque de caramel en fait, m'a toujours intriguée.
Et ça peut même écœurer. Hein.
C'est un peu écœurant. Ouais.
Il y a beaucoup de gens que ça dégoûte.
Et donc, oui, qui enlevaient carrément la peau de lait du bol. Hein.
Exactement, il y a des gens que ça dégoûte et des gens qui adorent ça, pour qui c'est une vraie madeleine. Donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant de voir que c'était quelque chose qui divisait en fait. Et je trouve ça assez intéressant en cuisine de remettre au goût du jour comme ça des techniques qui sont pas forcément aussi très utilisées par les grands chefs, qui sont plutôt des choses qu'on avait l'habitude de voir plutôt à la campagne. Hein. Moi, je suis plutôt une fille de la ville et j'ai pas vu beaucoup ce genre de choses dans mon enfance.
Et la campagne de Michel Bras, rappelons-le, c'est l'Aubrac, hein, l'Aïeul, où le restaurant familial est situé.
Donc moi, j'ai voulu m'intéresser à une autre peau de lait. Je suis allée chercher ça en Asie. On en a parlé, François Régis, en préparant cette émission. Et je trouve ça intéressant d'aller chercher des savoirs comme ça dans des techniques étrangères et de les apporter en France et essayer de les refaire avec des produits locaux et français. Donc en fait, j'ai découvert cette peau de lait qui est en fait appelée le yuba, qui est une peau de lait confectionnée avec du lait de soja. Il faut savoir que, comme vous le disiez plus tôt dans cette émission, on n'a plus le droit depuis 2017, ça a été interdit par la Cour de justice européenne, d'appeler le lait de soja, pour proprement parler lait, mais boisson de soja ou jus de soja. Moi j'aime bien l'idée de jus de soja parce qu'en fait, quand on fabrique du lait de soja ou donc une boisson à base de soja, on vient tremper des fèves de soja et ensuite les cuire pour les mixer. Donc en fait, c'était un vrai jus de soja. Je vais pas m'étendre sur la confection du lait de soja parce que je vous ai mis la recette sur le site de France Inter. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir plus de goût quand vous allez faire votre yuba. Et je trouve que ça fait une yuba plus épaisse, plus grasse aussi.
Qu'en utilisant du lait de soja de magasin bio.
Exactement. Là où j'ai été étonnée, c'est que je ne pensais pas, dans les rayons aujourd'hui des magasins bio, on trouve du lait de soja bio avec du soja bio français. Il faut savoir que la France, c'est le deuxième pays producteur de soja, dont 28% est bio. Donc je pense qu'on progresse sur ce plan-là. Et il faut savoir que la culture de soja, c'est aussi très intéressant dans l'agriculture. Ça vient en général enrichir les sols. Voilà, moi j'ai pas mal de producteurs de céréales qui me parlent autour de moi et qui me disent que c'est assez intéressant dans un cycle agricole. Et donc pour confectionner ces yuba, vous allez faire chauffer le lait de soja. Donc ça fonctionne tout à fait avec du lait que vous allez acheter dans un magasin plutôt biologique. Et donc vous allez faire chauffer très doucement ce lait pour l'amener à frémissement. Vous allez ensuite le mettre au bain-marie dans un plat. Donc vous posez votre plat sur une casserole et vous allez attendre à peu près entre 7 et 10 minutes que vienne se former une fine pellicule à la surface du lait. Et donc vous allez prendre à l'aide de soit une baguette, soit un pic à brochette, cette fine pellicule que vous allez récupérer en plaçant votre baguette en dessous de la fine pellicule. Et donc vous allez récupérer cette peau que vous allez pouvoir égoutter.
Il faut quand même raconter à nos auditeurs qu'on a affaire à une espèce de voile, de drapé, hein. Cassant, de couleur beige clair. Ça, c'est le résultat de ces expérimentations.
C'est très brillant, c'est très joli. Hein.
Et c'est très fin. Et en fait, il faut savoir qu'en Asie, c'est une pratique qui est très développée. On trouve même au Japon des usines à yuba où on produit de manière presque industrielle ces feuilles qu'on intègre traditionnellement dans la cuisine japonaise, mais aussi asiatique.
Ça peut servir à l'apéritif, ça?
Ça peut tout à fait servir à l'apéritif. Ce que vous mangez là, c'est la version séchée. Donc quand vous récupérez donc cette feuille et que vous l'avez fait les goûter. Vous pouvez soit vous en servir de manière fraîche. Là, je vous ai fait un petit rouleau. J'ai enroulé du chou frisé. Je trouvais que le chou frisé, c'était rigolo parce que ça avait la même texture que la feuille de yuba quand elle est un peu fripée. Oui. Donc en fait, j'ai enroulé cette feuille de chou frisé avec la feuille de yuba fraîche à la manière un peu d'un rouleau de printemps, en fait.
Dingue, hein. Exactement.
C'est exactement la même technique. Là, vous pouvez la manger comme ça, nature, avec ce chou à l'intérieur. Mais j'ai fait aussi une petite pâte de piment et noisettes dans laquelle vous pouvez le tremper si vous trouvez ça un peu fade. Moi, j'aime bien de manger nature parce que, exactement, la pâte de piment est un peu relevée et je trouve ça intéressant d'avoir ce goût de soja concentré, aussi très sucré finalement, comme la peau de lait dont on a le souvenir.
Et avec une texture, pour le coup, à l'état frais, c'est super intéressant, très élastique.
Très élastique.
Et très séduisante sous le palais, oui. Alors que quand vous la faites sécher, on a vraiment affaire à du crispy, quoi, enfin, croustillant, le croustillant d'une chips.
Exactement. Donc je l'ai fait sécher pendant 2 à 3 jours, et ensuite je l'ai récupéré et je l'ai fait frire dans de l'huile à 180 degrés. Ça fait penser au chicharrones, donc aussi à la peau de cochon. Voilà. Ça a quelque chose de très viandard, et c'est ça aussi qui est assez intéressant, et c'est pour ça qu'elle a été aussi intégrée, le yuba, dans la cuisine végétarienne bouddhiste, en remplacement de la viande. Et moi je trouve que cette texture...
Il y a un côté umami, là.
Il y a un côté très umami, il y a une texture très intéressante. Et enfin, vous avez un petit bouillon à base de champignons dans lequel j'ai fait réhydrater les yuba séchés. Et en fait, en Asie, on s'en sert comme presque comme un champignon séché. Et on le réhydrate dans des bouillons. Quand je l'ai goûté, j'ai trouvé que ça a vraiment une texture de champignon très intéressante. Et j'avais envie de l'associer aux champignons.
Alors, vous en pensez quoi, Pierre? C'est incroyable, ça.
Alors, je suis content que ce soit pas de la peau de lait. J'ai très très peur. Moi, je suis team peau de lait dégoûté. C'est génial, le côté peau de poulet. Alors là, ce qu'on vient de boire, tellement bon, ça.
Et c'est frais. Et c'est rafraîchissant.
C'est très frais. En fait, j'ai pas retravaillé sur la peau de lait de vache à proprement parler, mais je pense qu'avec le soja, on a quelque chose de plus léger, de plus aérien et de plus digeste, du coup, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on se rend compte qu'en France, il y a presque 30 à 50% de la population française qui digère de manière partielle le lait, et je pense que ça pourrait être intéressant de trouver des alternatives comme celle du soja pour le remplacer.
Alors soyons clairs, il ne s'agit pas du tout de s'opposer à la consommation de lait, mais il est vrai qu'il y a un problème de santé publique par rapport à la digestion du lait, Pierre Coulon.
Oui, alors après, faut voir de quel lait on parle. Aujourd'hui, quand je suis devant mes briques, là, je suis devant des produits qui ont été totalement craqués et finalement ultra transformés. Un litre de lait qui arrive aujourd'hui à la laiterie, il est totalement écrémé, il est pasteurisé, on va réinjecter la crème pour être dans les bons taux légaux. On peut y rajouter de la vitamine A, la vitamine D. Quand on voit la liste d'ingrédients, on est très très loin du truc qui sort naturellement du pis. Alors les intolérances au lactose, effectivement, se multiplient. Du coup, on a ces offres, un tiers des rayons parisiens, c'est aujourd'hui, c'est du sans lactose. Et qu'est-ce qu'on met dedans? La lactase, une enzyme qui est produite par des levures. Bon, ça reste quand même des trucs qui sont très manipulés.
On peut bien entendu retrouver les recettes de Manon Fleury à base de lait de soja, mais Manon Fleury n'est pas fâchée non plus avec le lait de vache.
Pas
la preuve
tout. J'ai fait une petite crème aux œufs et au lait, parfumée à la fleur d'oranger et au cédrat confit.
En utilisant un certain lait.
Le lait cru de la laiterie de Paris.
Et c'est délicieux.
Divin.
Oh bon.
C'est à retrouver sur franceinter.fr, oui. À la page On va déguster.
Exactement,
Manon.
Oui,
merci.
Vous avez toutes les recettes.
Très très belle démonstration du jour, signée Manon Fleury, qui a décidément un talent immense.